Bonjour à toutes et à tous. Gauche, droite, centre, extrême. Il n'y a pas si longtemps, le paysage politique français était plutôt lisible et les partis traditionnels de la droite et de la gauche s'affrontaient systématiquement aux élections. Désormais, ce paysage politique est davantage morcelé, comme les pièces d'un puzzle qu'on aurait mélangées. À un an des prochaines élections présidentielles, le nombre de candidats déclarés ou potentiels ne cesse de s'accroître. Le clivage droite-gauche s'éclate et l'échiquier politique semble avoir été complètement renversé. Alors, difficile pour les électeurs d'y voir clair dans ce brouillard, mais nous allons tenter d'éclaircir tout ça avec Alexandre Dezé que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro de Divergence. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, spécialisé en sociologie électorale et auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Fin de parti ou encore Les faux semblants du Front National. Alors on peut peut-être commencer par une première question que j'ai soulevée en introduction. Est-ce que c'est vraiment la fin du clivage droite-gauche traditionnel ?
Non, pas du tout. Non. Non, c'est absolument pas la fin de ce clivage qu'on prophétise et diagnostique à intervalles réguliers, mais ce clivage continue de structurer la vie politique française et on pourrait dire que même les élections municipales ont été un beau moment de rappel de la puissance structurante de ce clivage, puisqu'on a un système politique qui aujourd'hui est extrêmement polarisé, alors autour disons, ensemble partisans assez structurés, assez puissants, l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais voilà, le Parti socialiste continue d'exister, le centre continue d'exister, la droite républicaine également, quelle que soit leur faiblesse au niveau national. On voit que c'est compensé par une présence quand même au niveau local relativement importante. Mais très concrètement, même dans une élection municipale où on dit que les partis sont plus ou moins absents, ils sont quand même là, derrière les listes citoyennes, les listes apartisanes, c'est eux qui structurent encore la vie politique, et malgré tout, gauche et droite continuent également de constituer des repères importants pour les électeurs.
Il y a pourtant de nombreuses scissions à gauche comme à droite, il y a des partis nouveaux qui naissent un peu chaque année. Alors, à quoi on doit ce morcellement justement ?
On pourrait dire que c'est presque la vie naturelle en fait, des systèmes de partis, notamment en France. Hein, on est dans une société où prévaut un système multipartisan. C'est le cas depuis très longtemps, en fait, depuis l'avènement de la démocratie contemporaine, qu'on peut éventuellement fixer des débuts de la Troisième République. Mais dès la Troisième République, en fait, on est dans un système politique morcelé par les partis, par différents courants. Donc, encore une fois, ça n'a pas de caractère de nouveauté. Et ce qui est justement très intéressant, c'est la force avec laquelle ce discours sur la fin du clivage gauche-droite, sur la parcellisation partisane du système politique français revient, en fait. Et c'est ça qu'on devrait prendre comme objet d'étude, en fait.
Oui. Il y a peut-être, du point de vue des électeurs, un problème d'étiquetage aussi. On a vu que ça a fait débat quand Laurent Nunez a décidé d'étiqueter la France insoumise à l'extrême gauche pour les élections municipales. Est-ce que ça a encore un sens, ces notions d'extrême ?
Oui, absolument. Alors moi, je pense qu'il faut dissocier ce que le personnel politique fait avec les étiquettes partisanes et la manière dont les électeurs les appréhendent. Pour les électeurs, c'est essentiellement un mode de repérage politique qui est précieux. Hein. Quand on demande aux personnes dans les enquêtes de se positionner sur l'échelle gauche-droite, ils le font sans aucune difficulté, en fait. Donc c'est un principe, encore une fois, qui permet de mieux se positionner dans l'espace politique. Après, ce qui se passe du côté de la qualification par les autorités politiques des partis politiques, regarde essentiellement les partis politiques qui pour la France insoumise ou le Rassemblement national rejettent effectivement les catégories extrêmes parce qu'elles considèrent qu'elles participent de leur disqualification.
Oui. Et en termes de vote, on voit que c'est assez divisé aussi au niveau des Français. Donc je prends par exemple la ville de Nîmes qui a vu s'affronter au second tour le Parti communiste français d'une part et le RN d'autre part. Et au niveau national, c'est aussi assez serré. Aux élections 2022, ça a été très serré entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le fait du morcellement de ce paysage politique ou c'est l'effet d'autre chose, un autre facteur ?
On parle beaucoup en ce moment de tripartition de l'espace politique, mais comme quand j'étais étudiant en sciences politiques il y a une trentaine d'années maintenant, on parlait déjà de tripartition de l'espace politique. Moi, j'ai l'impression que les choses ne changent pas beaucoup d'un point de vue structurel. Évidemment, se modifie du point de vue du contenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement la même offre partisane qu'il y a 20-30 ans, mais encore une fois, on se refuse à voir le caractère finalement assez ordinaire de fonctionnement du système politique. Alors effectivement, on a des logiques d'affrontement renouvelées, parfois bipolaires, parfois tripolaire. On a bien rigolé pendant les municipales sur ce qu'on appelait les quinquangulaires, les sexangulaires, etc. Donc ça signifie quand même qu'il y a une offre qui est relativement importante, mais qui prend des configurations très différentes d'une municipalité à l'autre, d'une région à l'autre, voilà, d'une élection à l'autre.
Oui, c'est très variable. Exactement. On pourrait même parler de quadripartition avec l'abstention. Qui croit beaucoup. Donc, on était à 28% au présidentiel de 2022, 42% au second tour de ces municipales donc de 2026. La sociologue et politologue Anne Muxel, elle distingue l'abstention hors le jeu politique. Donc, pour schématiser pour nos auditeurs, c'est les électeurs qui ne s'intéressent pas spécialement à la politique, et l'abstention qui est, elle, dans le jeu politique, donc les électeurs qui ne votent pas sciemment avec une intention politique derrière. Est-ce que vous partagez cette distinction? Et si c'est le cas, selon vous, c'est laquelle de ces deux abstentions qui croit?
Alors non, je ne partage pas du tout cette distinction. La première chose que j'apprends à mes étudiants quand on parle de l'abstention, c'est justement à mettre à distance cette catégorisation, parce que en fait, elle procède de deux questions assez simplistes qui sont posées dans les enquêtes du CIPOF. Mmh. Et bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la manière dont ces questions sont posées, en fait, apparaît relativement discutable. En fait, on isole un groupe d'individus qu'on qualifie dans le jeu parce qu'ils arrivent à déclarer un minimum d'intérêt pour la politique et une proximité partisane minimale, quoi. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de proximité partisane que pour autant on bascule dans l'abstentionnisme hors jeu. Ce qui est prégnant en fait dans l'abstentionnisme, c'est ce qu'on appelle d'une part l'abstentionnisme social, et c'est cet abstentionnisme qui croît. Pourquoi on ne peut pas parler d'abstentionnisme dans le jeu? Alors l'abstentionnisme politique, c'est la même chose, hein, existe, mais il concerne simplement une minorité d'individus dans la population. Ce sont des individus qui s'intéressent à la politique, qui suivent la politique, qui parlent de politique. Donc en sciences politiques, on appelle ça la compétence politique. Or cette compétence politique, elle est très inégalement distribuée d'un point de vue social dans la population. Il y a une minorité de la population en fait qui maîtrise les schèmes de la politique. D'accord? Donc le principal facteur de l'abstentionnisme, c'est l'abstentionnisme social, c'est-à-dire en gros, vous avez d'autant plus de chances de vous abstenir si vous êtes ouvrier, si vous êtes une femme jeune, sans emploi, isolée, si vous êtes veuve, si vous êtes divorcée, etc. Ce sont les propriétés sociales des individus qui prévalent dans la détermination des comportements politiques. Et puis, il y a un autre point qui est extrêmement important dans l'abstention, qu'on ne veut pas prendre au sérieux en dépit des travaux scientifiques qui existent, c'est le problème de la malinscription. C'est-à-dire on pense qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 8-9 millions de personnes qui sont mal inscrites, et notamment les jeunes. Et l'abstention est plus particulièrement forte chez les jeunes. C'est-à-dire, en gros, les jeunes ont été inscrits au domicile de leurs parents au moment du recensement, d'accord ? Mais entre-temps, entre le recensement et le moment où ils votent, ils ont déménagé, sauf qu'ils n'ont pas changé d'adresse. Mmh. Donc, le jour du vote, en fait, ils ne sont pas chez leurs parents, même s'il y a une dérogation. Et donc, ils ne peuvent pas voter. Cette malinscription, elle multiplie par 3,5 en fait, la probabilité de ne pas voter. Quoi. Et ça, quand on aura essayé de régler... En France, on est l'un des pays, vraiment, au monde où on facilite le moins la possibilité pour les électeurs de voter. Et ce problème doit être vraiment pris au sérieux, et le problème de l'inscription est vraiment majeur. En Autriche, par exemple, on permet à tous les électeurs de voter dans n'importe quel bureau de vote. Il faudrait arriver à cette facilité-là en France si on veut faire en sorte que l'abstention augmente. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène très variable. Là, effectivement, d'une municipale à l'autre, on a vu que l'abstention avait augmenté. Peut-être que c'est également lié à la modification du mode de scrutin, puisqu'on a eu beaucoup de listes uniques. Moi, je l'ai vu dans le village où j'habite, il y avait deux listes. Il y a eu une mobilisation relativement faible, parce que très concrètement, les gens devinent ce qui va advenir du scrutin, donc ils n'y participent pas forcément. Mais il ne faut pas oublier que dernièrement, au cours de ces 10 dernières années, on a quand même enregistré un certain nombre d'élections où la participation est repartie à la hausse. Donc c'est un phénomène qui est relativement fluctuant. Donc il ne faut pas non plus dresser des conclusions hâtive, définitive sur la désertion civique, le rejet de la politique par les citoyens,
etc. En basant uniquement sur les chiffres de l'abstention.
Exactement.
Okay. On va poursuivre ces échanges après une courte pause. On se retrouve tout de suite.